Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode consacré à la transmission du maternel, je vais vous apporter quelques pistes de réflexion sur ce qui se transmet de la fonction maternelle de mère en fille, de génération en génération, mais aussi sur l'impact de l'histoire familiale dans cette transmission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le rôle de mère et plus précisément sur ce qui caractérise une bonne mère. Le pédopsychiatre et psychanalyste Winnicott a défini le concept de mère suffisamment bonne, sur lequel la majorité des psys s'accordent aujourd'hui. Une bonne mère, c'est une mère qui est suffisamment bonne pour rassurer et protéger l'enfant, pour écouter ses besoins et s'y accorder, qui est présente sans être envahissante, et qui sait fixer un cadre et des limites. C'est une mère qui n'est pas parfaite, qui fait des erreurs bien sûr, mais qui sait les reconnaître et les corriger, seule ou avec de l'aide extérieure. À l'inverse, les mères qui ne sont pas suffisamment bonnes sont des mères qui imposent à leur enfant de s'adapter à leurs propres besoins, qui sont négligentes ou absentes, qui ne protègent pas leur enfant, qui l'humilient ou le maltraitent. Les violences physiques ou psychiques faites à l'enfant sont parfois évidentes, mais il arrive qu'elles soient plus sournoises, difficiles à identifier, car certaines mères perverses alternent entre des moments où elles peuvent faire preuve d'affection et d'attention, et d'autres où elles sont violentes et rejetantes. Les mères qui ne sont pas suffisamment bonnes peuvent souffrir de troubles psychiques particuliers, notamment de l'ordre de la psychose, mais nous le verrons, ce sont souvent des mères blessées par leur propre histoire. Je voudrais revenir aussi sur ce concept d'instinct maternel qui suppose que les femmes sachent d'emblée, de façon innée, comment s'occuper de leur enfant, qui est aujourd'hui largement remis en question par la plupart des professionnels du soin et de l'accompagnement qui travaillent autour de la relation mère-enfant. Contrairement à ce qu'on a longtemps cru, devenir mère ne va pas de soi. En témoignent d'ailleurs les multiples ouvrages et podcasts autour de ce sujet. C'est en réalité le résultat d'un long travail de maturation psychique que le psychanalyste Paul-Claude Racamier a nommé « la maternalité ». Et ce processus dépend de multiples facteurs, dont ceux auxquels je vais plus particulièrement m'intéresser aujourd'hui, la mère antérieure, et plus largement, l'histoire personnelle et familiale. Quand une femme commence à penser à avoir un enfant, elle se connecte automatiquement à ce qu'elle a connu, à savoir la relation qu'elle a eue avec sa propre mère. Pour certaines femmes, la mémoire de cette relation est si terrible qu'elle renonce à devenir mère elle-même, par peur de reproduire un lien de souffrance. Pour celles qui décident d'avoir un enfant, cette relation constitue en quelque sorte le modèle qu'elles ont reçu et à partir duquel elles vont se positionner elles-mêmes en tant que mère. Comme le dit la psychothérapeute Hélène Romano dans son livre « Quand la mère est absente », au-delà des bonnes intentions, il n'est pas facile d'être parent, car cela renvoie au plus intime de notre histoire, au cœur de ce qui nous constitue, et on peut, bien inconsciemment, se retrouver à répéter avec son enfant le seul mode de relation qu'on connaisse et qu'on a vécu soi-même en tant qu'enfant. Petite parenthèse pour vous dire que la mémoire de cette relation est d'autant plus présente qu'au moment de la grossesse, la femme se trouve dans un état de transparence psychique décrit par la psychanalyste Monique Bidlowski, qui favorise l'émergence de contenus psychiques inconscients relatifs à sa propre relation à sa mère dans son enfance. De manière caricaturale, la femme qui devient mère va donc soit reproduire le modèle relationnel qu'elle a connu avec sa propre mère, soit s'efforcer de faire le contraire. Mais dans les deux cas, vous noterez qu'il y a toujours un lien avec ce qu'elle a vécu avec sa mère, qui elle-même était devenue mère en référence à sa propre mère. C'est ce qui fait dire au psychanalyste transgénérationnel Didier Dumas que, et je le cite, « l'inconscient maternel n'est pas un inconscient individuel. C'est un inconscient centré par la présence interne d'une mère antérieure qui sert à légitimer celle que l'on devient. Cet inconscient qui détermine le style avec lequel on est parent est un inconscient de lignée, un inconscient qui s'est non seulement construit à partir de ce qu'ont été les mères et les pères dans les générations antérieures, mais dont en plus les effets se transmettent et se perpétuent, plus particulièrement de mère en fille ou de père en fils. » Pour le dire autrement, dans la relation d'une mère à sa fille, il y a toujours trois générations en jeu. La fillette se trouvant confrontée au fantôme de la mère antérieure, à savoir la trace de sa grand-mère dans le psychisme de sa mère. Un autre éclairage de cette référence au modèle maternel est apporté par les théories de l'attachement, élaborées par le psychiatre John Bowlby et la psychologue Mary Ainsworth dans les années 80. Ils ont mis en évidence que différents types de liens pouvaient se mettre en place entre une mère et son enfant. On parle d'un attachement sécure lorsque la mère, suffisamment bonne, peut offrir un cadre sécurisant qui permet le développement harmonieux de l'enfant. L'attachement est de type anxieux lorsque l'enfant n'a pas été suffisamment sécurisé par ses parents, ce qui se traduit très souvent par une tendance à la dépendance affective à l'âge adulte. L'attachement dit évitant se met en place lorsque les parents ont été perçus comme non disponibles et que l'enfant a réagi par une mise à distance de ses émotions et la croyance qu'il ne peut compter sur personne. Enfin, l'attachement est appelé désorganisé quand la relation avec le parent est marquée par une alternance de moments sécurisants et de moments angoissants. À l'âge adulte, il se traduit par une grande imprévisibilité dans les réactions émotionnelles, des comportements de type anxieux alternant avec des comportements de type évitant. Le style d'attachement que la mère a mis en place dans son enfance, qui influence sa manière d'entrer en relation aux autres, est celui avec lequel elle va entrer en relation avec ses enfants. Les enfants qui ont des parents à l'attachement anxieux développeraient donc un attachement anxieux. Les enfants qui ont des parents à l'attachement évitant développeraient donc un attachement évitant, etc. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver sur plusieurs générations le même type de relation mère-enfant. Certaines mères ont été tellement abîmées par la relation avec leur mère qu'elles ne savent pas aimer et ne peuvent pas créer un lien affectif sécure avec leur enfant, reproduisant ainsi leur relation avec leur propre mère. C'est ainsi qu'on trouve très souvent dans les histoires familiales des reproductions de scénarios d'abandon sur plusieurs générations. D'autres femmes, mal aimées ou maltraitées par leur mère pendant leur enfance, attendent plus ou moins consciemment que leur enfant vienne leur apporter tout l'amour qu'elles n'ont pas reçu. Elles investissent alors l'enfant d'une mission de réparation bien lourde à porter, qui fera de lui un enfant parfait, cherchant toujours à satisfaire les désirs et attentes de sa mère ou à la consoler. Et un adulte qui bien souvent aura des difficultés à prendre ses distances avec elle, tant il est enchaîné par une puissante loyauté. À ce sujet, quand dans son projet sens la fille est chargée d'être la mère de sa mère, elle prend la place de sa grand-mère, et cette confusion des places peut l'empêcher d'accéder à la maternité. Comme le décrit la psychothérapeute Hélène Romano, dans le cas où une mission de réparation a été confiée à l'enfant, il arrive que la mère soit finalement déçue par son enfant, qui ne comble pas suffisamment son besoin d'amour, et qu'elle le rejette, répétant ainsi le scénario de la génération précédente, c'est-à-dire le rejet qu'elle a elle-même vécu avec sa propre mère. Lorsqu'elles essaient d'éviter la reproduction, les femmes qui ont souffert du lien avec leur mère peuvent tenter de devenir un parent idéal. En identifiant leur enfant à l'enfant qu'elles ont été, elles cherchent plus ou moins consciemment à réparer leur propre histoire, leur manque dans leur relation à leur mère, en étant la meilleure mère possible pour leur enfant, en lui donnant tout ce qu'elles n'ont pas eu. Elles peuvent devenir par là même des mères étouffantes ou insécurisantes pour leurs enfants, qui eux ont besoin qu'on leur dise non et qu'on leur fixe des limites. Certaines peuvent devenir des mères sacrificielles qui ne se privent pas de dire à leur enfant tout ce qu'elles ont sacrifié pour lui, le maintenant ainsi dans une dette éternelle envers elles, rendant ainsi très difficile la rupture du lien à l'âge adulte. À noter que le lien mère-enfant peut ne pas se mettre en place ou être détérioré dès la naissance, mais il arrive également qu'il se dégrade plus tard quand l'enfant atteint un âge anniversaire qui réveille la propre souffrance de sa mère au même âge, ou quand la jeune fille entre dans l'adolescence, réveillant les angoisses d'abandon et de rejet de sa mère, ou une rivalité de femme à femme. Retenez aussi qu'une mère n'est pas la même mère pour tous ses enfants. Je vous en ai parlé dans l'épisode consacré au projet Sens. En fonction du contexte d'arrivée de l'enfant ou de sa place dans la fratrie, ou encore de ce qu'elle projette sur lui, elle peut s'avérer étouffante ou à l'inverse toxique ou incapable de créer du lien avec un de ses enfants seulement. Plusieurs femmes que j'ai accompagnées m'ont décrit avoir ressenti des angoisses très importantes vis-à-vis d'un seul de leurs enfants, jusqu'à découvrir ou tout simplement prendre conscience qu'il se trouvait au même rang de naissance ou qu'il était du même sexe qu'un de leurs frères et sœurs mort-nés ou morts en bas âge, ou même qu'un enfant de leur grand-mère mort-né ou mort en bas âge. On voit bien ici que les peurs de la lignée des mères se transmettent et peuvent générer des perturbations ou des angoisses profondes dans le lien à l'enfant. Bien sûr, on ne peut pas parler de la mère sans parler du rôle du père. Pour reprendre quelques notions de psychanalyse, le père est le tiers séparateur, celui qui permet à l'enfant de défusionner avec sa mère et de se lancer à la découverte du monde. Ce que le psychanalyste transgénérationnel Didier Dumas a souligné, et dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur la transmission du féminin, c'est que lorsque le père n'occupe pas sa place, il laisse l'enfant totalement en prise à sa mère, qui devient à la fois toute puissante et étouffante, mais aussi intouchable pour l'enfant devenu adulte, puisque finalement, elle est la seule à s'être occupée de lui. Ce rôle de père qui n'est pas pris est bien sûr à mettre en lien avec l'histoire familiale. C'est ce que décrit bien la psychologue Marie-Estelle Dupont dans son livre témoignage « L'anti-mère ». Son père, qui avait vu trop souffrir sa propre mère, n'a pas voulu faire de mal à son épouse en s'interposant dans la relation mère-fille, et ce faisant, a abandonné sa fille à l'emprise destructrice de son épouse. Pour terminer, je voudrais insister sur le fait que s'il y a un lien certain entre les générations, il n'y a pas de reproduction automatique de la violence ou de la maltraitance physique ou psychique de mère en fille, contrairement à ce qu'on a longtemps cru. Heureusement, de nombreuses femmes arrivent à se dégager du modèle maternel grâce à leur propre vécu relationnel, à l'investissement dans d'autres figures maternelles, grâce à leurs conjoints, à leurs amis, grâce à un cheminement intérieur qu'elles réalisent seules ou accompagnées d'un thérapeute. Quand on s'interroge sur la lignée des mères, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent avoir impacté le processus de maternalité dans l'histoire familiale et qui peuvent éclairer pourquoi la fonction maternelle a été perturbée ensuite sur plusieurs générations. Certains de ces facteurs sont en lien avec la grande histoire, le contexte social, économique ou culturel. D'autres sont plutôt liés à l'histoire personnelle et familiale. À ce sujet, il faut garder à l'esprit qu'être mère aujourd'hui n'est pas comme être mère il y a un siècle. Comme le dit l'historienne Yvonne Kniebiller, la fonction maternelle chez les humains est toujours et partout une construction sociale, définie et organisée par des normes, selon les besoins d'une population donnée, à une époque donnée de son histoire. Je ne vais pas vous faire ici un cours sur l'histoire de la maternité, mais gardez en tête que la fonction maternelle a profondément évolué en fonction des époques. Par exemple, au XVIIIe siècle, il était courant dans l'aristocratie, puis ensuite dans toutes les classes sociales, de placer son enfant en nourrice, parfois très loin de chez soi. Il faut donc toujours recontextualiser en fonction de l'époque, des injonctions sociales, des événements historiques. Parmi les facteurs impactant la fonction maternelle liée au contexte sociétal et à l'époque, on trouve jusqu'à une période très récente une forme d'obligation pour une femme d'avoir des enfants. Être mère a été pendant longtemps considéré comme l'accomplissement de la vie d'une femme, et rares sont celles qui ont pu affirmer et vivre leur choix de ne pas avoir d'enfants. Il est donc assez fréquent de retrouver dans les histoires familiales une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui n'a pas investi affectivement ses enfants, tout simplement parce qu'elle ne les avait pas voulu, qu'elle s'était pliée au modèle sociétal de son époque, mais n'avait jamais eu en elle un vrai désir d'enfant. On trouve aussi toutes les perturbations de la fonction maternelle en lien avec les guerres, avec en premier lieu toutes les mères qui ont subi des traumas pendant les guerres, je vous en ai parlé dans l'épisode sur les mémoires de guerre. Il y a aussi la situation des femmes qui ont perdu leur mari pendant la guerre de 14-18 et qui se sont retrouvées veuves très jeunes, enceintes ou avec des enfants en bas âge. Si certaines ont reconstruit leur vie, d'autres se sont enfermées dans un deuil infini, reportant tous leurs besoins affectifs sur leurs enfants et chargeant ainsi de la mission de réparation avec les conséquences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans certaines familles, on trouve aussi des mères qui se sont retrouvées seules avec 5 ou 6 enfants à élever et qui ont fait le choix d'en placer certains, souvent les plus grands, pour pouvoir survivre et s'occuper des autres. Et j'observe parfois les conséquences de ce placement sur 2 à 3 générations. placement qui d'ailleurs est une double peine pour l'enfant, puisqu'il vient s'ajouter au traumatisme du décès du père. Plus généralement, les séparations des couples pendant la guerre ont souvent impacté les conditions de vie des mères, les conditions de survie même pour certaines, et leurs relations avec leurs enfants. Au-delà du contexte sociétal, il y a des facteurs impactant la maternalité qui sont, disons, plus en lien avec l'histoire personnelle et familiale, bien que le contexte, bien sûr, soit toujours à prendre en compte. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai rencontrés dans mes accompagnements pour vous montrer justement comment cette histoire familiale peut impacter la relation mère-enfant sur une génération et se répercuter sur les suivantes par le mécanisme que je vous ai décrit au début de l'épisode. Les jeunes femmes qui ont été mariées en toute urgence parce qu'elles étaient enceintes peuvent avoir par exemple des difficultés à s'attacher à ce premier enfant qui les a obligées à se marier trop vite avec un homme qu'elles n'aimaient pas et qui d'ailleurs n'était pas toujours le père de l'enfant. C'est le cas aussi parfois des jeunes filles qui sont devenues mères trop jeunes, tout juste à la sortie de l'adolescence, avant même d'avoir eu le temps d'être des femmes. Dans le même registre, il faut parler aussi de toutes ces femmes qui ont eu un enfant suite à un viol ou un inceste, auquel il leur a été impossible de s'attacher parce qu'il était la mémoire vivante de l'agression subie. D'ailleurs, les conditions de conception de ces enfants restent presque toujours secrètes et viennent perturber ensuite les relations mère-enfant dans les générations suivantes. Des troubles de l'attachement peuvent se manifester aussi chez certaines femmes qui ont eu de nombreux enfants, une dizaine ou parfois même une quinzaine, soit en raison de l'absence de connaissances sur les méthodes naturelles de contraception, soit, il faut le dire, que leur mari ne leur laissait pas trop le choix. D'ailleurs, dans ces immenses fratries, ce sont presque toujours les filles aînées qui s'occupent de leurs frères et sœurs et qui peuvent ensuite renoncer à elles-mêmes à avoir des enfants ou rencontrer des difficultés à s'attacher à leurs propres enfants, puisque finalement, elles ont déjà été la mère de leurs frères et sœurs. En psychogénéalogie, on dit qu'on ne peut être la mère que d'une génération. Attention, c'est une généralité qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais qui veut dire que le fait d'être la mère de ses frères et sœurs ou la mère de sa mère peut venir troubler la relation à ses propres enfants. Je rencontre aussi parfois des situations où une grand-mère ou une arrière-grand-mère a perdu sa première ou ses deux premières filles en bas âge et dont la fille n'a pas pu investir affectivement sa propre fille, comme si l'inconscient familial avait retenu que c'est trop dangereux d'aimer une fille. Le fantôme de la petite fille morte, au sens psychanalytique du terme, vient alors perturber le processus d'attachement sur plusieurs générations. Il arrive également que la mère qui perd un enfant sombre dans une dépression profonde et abandonne affectivement son ou ses autres enfants. C'est le syndrome de la mère morte décrit par le psychanalyste André Green. La fillette rejetée par sa mère peut avoir à son tour des difficultés à investir affectivement ses propres filles, qui elles-mêmes perpétueront ce schéma. Et c'est ainsi qu'on trouve dans certains arbres généalogiques des lignées de mères qui n'ont pas pu aimer leurs filles. Je remarque aussi assez régulièrement des troubles de l'attachement de la mère à sa fille lorsque la mère a perdu sa sœur dans l'enfance, peu avant d'attendre un enfant ou encore pendant sa grossesse. Ces troubles peuvent aller dans le sens d'un surinvestissement de la fillette qui est chargée de remplacer la sœur morte, mais plus souvent dans le sens d'une difficulté d'attachement. Plus généralement, les mères à qui il est arrivé quelque chose de grave pendant la grossesse ou lorsque leur enfant est encore petit, le décès d'un proche, une maladie, un accident, une agression, peuvent désinvestir affectivement leurs enfants car elles ont perdu le goût de vivre et ont sombré dans la dépression. Dans le cas d'une agression ou d'un accident, ce sont parfois les troubles post-traumatiques qui ont perturbé la construction du lien d'attachement. Dans un autre registre, les mères qui ont vécu des traumas pendant leur propre enfance, comme une situation d'inceste ou des violences, dans lesquelles elles n'ont pas été protégées par leur propre mère, peuvent avoir des difficultés d'attachement à leurs enfants. Ce sont des mères qui peuvent être, attention ici encore ce n'est pas systématique, insécurisantes pour leurs filles, qui elles-mêmes pourront ensuite avoir des difficultés à créer un lien sécur avec leurs enfants. Bien sûr, les mères qui ont rencontré des difficultés importantes dans leur relation de couple, un mari gravement malade ou souffrant de troubles psychiques, peuvent avoir été des mères absentes pour leurs enfants, créant ainsi un sentiment d'insécurité dans le lien. Il m'arrive aussi d'accompagner des femmes qui réalisent que leur mère, leur grand-mère, ou qu'elles-mêmes, ont choisi de faire un enfant pour réparer l'histoire familiale. J'ai ainsi accompagné une jeune femme, que je vais nommer Valérie, qui souffrait de ne pas avoir été aimée par sa mère. Sa mère souffrait elle-même d'avoir été abandonnée par sa propre mère, puisqu'elle avait été placée peu après sa naissance, à temps plein, pendant plusieurs années chez sa grand-mère, au prétexte que ses parents travaillaient trop pour pouvoir s'occuper d'elle. En regardant de plus près l'histoire familiale, Valérie s'est rendue compte que cette arrière-grand-mère avait perdu sa deuxième fille à la naissance, et c'est comme si sa fille aînée, la grand-mère de Valérie donc, lui avait inconsciemment offert sa propre fille pour réparer l'histoire familiale. Il y a enfin toutes les situations où la mère est morte trop tôt pour pouvoir s'occuper de ses filles. Les conséquences sont très variables en fonction des liens d'attachement qu'ont pu nouer les fillettes avec une autre figure qui prend ou non la place d'une mère aimante. À une certaine époque, au début du XXe notamment, quand les mères mouraient assez jeunes, souvent en couche ou suite à des infections postnatales, les hommes se remariaient très vite pour avoir quelqu'un pour s'occuper des enfants. Et certaines belles-mères voyaient la première fille de leur mari comme une gêne, comme une rivale, ou encore comme le fantôme menaçant de l'ex-femme. D'ailleurs, Bruno Clavier décrit dans son livre « Les fantômes familiaux » qu'il y avait une croyance courante que le fantôme de l'ex-femme viendrait prendre la vie du premier enfant. Dans d'autres cas, c'est parfois la grande sœur ou la grand-mère qui prend la place de la mère, ce qui peut créer une confusion dans l'ordre des générations et engendrer entre autres des problématiques de place dans les générations suivantes. Lorsque la mère décède quand sa fille est jeune, il arrive aussi que cette jeune fille, en grandissant, garde une image idéalisée de sa mère et rencontre des difficultés à devenir mère elle-même. Comment se construire une identité de mère par rapport à cette mère idéale ? Ces difficultés peuvent se répercuter sur la génération suivante. Comment se séparer d'une mère qui, elle-même, ne s'est pas séparée du fantôme idéalisé de sa propre mère ? Dans toutes ces situations, et bien d'autres, c'est impossible d'en faire le tour ici. Soit les liens mère-enfant ne peuvent pas se créer dès l'arrivée de l'enfant, soit la souffrance de la mère dégrade ce lien par la suite. Et je précise que les conséquences ne seront pas les mêmes pour l'enfant qui a pu bénéficier d'un lien sécure avec une figure d'attachement dès la toute petite enfance. Gardez à l'esprit que toutes les situations que je vous ai présentées sont simplifiées. Il y a énormément d'autres facteurs qui influencent notre manière de devenir mère, comme notre vécu personnel, l'implication du père de l'enfant, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le fait d'avoir pu trouver une mère de substitution, de s'être interrogé sur la mère qu'on voulait être, d'avoir réalisé un travail d'introspection, seul ou avec un thérapeute. Comme je vous l'ai dit, les troubles de la fonction maternelle ne se reproduisent donc pas automatiquement d'une génération à l'autre, fort heureusement. Et si vous vous sentez coupable ou inquiète à l'écoute de cet épisode, pensez à réécouter le passage sur la mère suffisamment bonne. Alors à quoi ça sert de s'interroger sur l'histoire des mères de notre famille et de comprendre ce qui s'est transmis de la manière d'être mère depuis plusieurs générations ? D'abord, pour toutes celles d'entre vous qui souffrent d'un mal de mère, pour reprendre l'expression consacrée, le fait de prendre du recul sur votre propre histoire et de comprendre que la relation de souffrance que vous avez eue avec votre mère est le résultat d'un schéma qui se rejoue depuis plusieurs générations, peut vous aider à ne plus vous sentir coupable d'avoir été le mauvais enfant et à accepter que votre mère ne pouvait pas créer avec vous un lien d'attachement sain. Pas pour l'excuser, bien sûr, mais pour vous aider à faire le deuil de la mère idéale que vous n'aurez malheureusement jamais et apprendre à être une bonne mère pour vous-même. Mais cela suppose d'avoir pu mettre des mots sur les négligences ou sur les violences physiques ou psychiques subies, ce qui est souvent le résultat d'un long travail. Car la mère est encore très idéalisée et souvent intouchable dans notre société. Les femmes que j'accompagne me racontent souvent s'être entendues dire « mais non, tu exagères » ou encore « mais si, elle t'aime, ta mère, forcément » lorsqu'elles ont osé évoquer la maltraitance ou la négligence dont a fait preuve leur mère. De plus, les enfants maltraités ou mal aimés par leur mère souffrent parfois de troubles dissociatifs et peuvent prendre des années pour se souvenir et poser des mots sur ce qu'ils ont vécu. Pour ceux ou celles qui ont eu des mères ambivalentes ou manipulatrices, la prise de conscience du mal qu'elle leur a fait peut également être longue, puisque ce sont des enfants qui ont une mère parfois aimante, parfois rejetante ou méprisante, et qu'ils sont donc à ce titre toujours en recherche de l'amour, même à l'âge adulte. Et puis il y a parfois des violences masquées, sournoises, ou des comportements intrusifs qui sont difficilement identifiables pour qui ne les a pas vécus, mais qui détruisent à long terme. S'interroger sur l'histoire des mères de la famille peut aussi être éclairant pour celles qui voudraient être mères, mais qui ont peur d'avoir un enfant, et souvent plus particulièrement peur d'avoir une petite fille, et de rejouer la relation qu'elles ont connue avec leur propre mère. C'est d'ailleurs parfois cette peur inconsciente qui bloque la fécondité. Comprendre ce qui s'est joué dans le lien mère-enfant aux générations précédentes permet de naître en conscience à sa propre fonction de mère et d'éviter les répétitions. Pour celles qui ressentent le besoin d'être accompagnées, la psychogénéalogie permet d'éclairer et d'analyser les relations mère-fille dans l'histoire familiale, de prendre conscience de ce bagage transgénérationnel, de ses forces et de ses encombrements, de se libérer de ses mémoires familiales et de la loyauté à la mère. Encore un petit mot pour vous dire qu'en complément de la psychogénéalogie, la thérapie de l'enfant intérieur, qui vise à se connecter à son enfant intérieur pour réparer ses blessures, est un accompagnement particulièrement adapté en cas de souffrance dans le lien à la mère. Il peut parfois aussi être nécessaire d'entamer un travail particulier en EMDR ou avec d'autres techniques de libération du traumatisme lorsque la relation à la mère a créé un véritable trauma. Voilà pour ces quelques pistes de réflexion sur la transmission du maternel à travers les générations. Comme d'habitude, je mettrai en description de cet épisode les différentes ressources sur lesquelles je me suis appuyée. Et si le sujet des troubles de la relation mère-enfant vous intéresse, je vous recommande vraiment de lire l'excellent ouvrage d'Hélène Romano qui s'intitule « Quand la mère est absente ». Si vous souhaitez plus d'informations sur l'accompagnement que je propose, à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à vous connecter à mon site internet sophieduverne.com. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.